Chapitre 18. Comment les chansons présenteraient-elles la scène? La déesse sur son promontoire solitaire, son amant s'éloignant à l'horizon, le regard mouillé mais indéchiffrable, tourné vers l'intérieur et ses pensées intimes. Des bêtes se rassemblent au bas de ses jupes, les tilleuls fleurissent, et tout à la fin, juste avant qu'il disparaisse au loin, elle lève une main, puis la pose sur son ventre. Mes entrailles se mirent à bouillir dès l'instant où le navire leva l'ancre. Moi qui n'avais jamais été malade de ma vie, je le fus désormais à chaque instant. Je vomissais jusqu'à en avoir la gorge à vif, l'estomac secoué tel une coquille de noix, les commissures des lèvres craquelées. On aurait dit que mon corps rejetait tout ce que j'avais mangé depuis 100 ans. Mes nymphes s'accrochaient les unes aux autres en se tordant les mains. Elles n'avaient jamais rien vu de pareil. Durant leur grossesse, les nôtres resplendissent et gonflent à la manière des bourgeons. Elles pensaient que j'avais été empoisonnée ou maudite par quelque transformation contre nature, mon corps tentant de se retourner comme un gant. Quand elles essayaient de m'aider, je les repoussais. L'enfant que je portais serait qualifié de demi-dieu. Toutefois, ce mot était trompeur. De mon sang, il hériterait quelques grâces particulières, la beauté ou la rapidité, la force ou le charme. Mais tout le reste viendrait de son père, car la mortalité est toujours plus forte que la divinité. Sa chair serait sujette aux mêmes 1000 accrocs et accidents qui menacent chaque homme. Je ne me fiais à une telle fragilité chez aucun dieu, aucun membre de ma famille, chez personne à part moi-même. « Partez maintenant !» leur enjoignis-je de ma nouvelle voix rauque. « Je ne veux pas savoir comment, mais contactez vos pères et allez-vous-en. Ce qui est en train d'arriver est pour moi seul. » Que pensèrent-elles d'une telle déclaration? Je ne le sus jamais. Je fus saisie d'un nouvel accès de nausée, les yeux pleins de larmes et la vision brouillée. Le temps que je retrouve le chemin de la maison, elles étaient parties. Je suppose que leur père avait accepté, par peur que tomber enceinte d'un mortel ne soit une maladie contagieuse. Mon foyer me parut étrange sans elles, mais je n'eus ni le temps d'y penser, ni celui de pleurer le départ d'Ulysse. Les nausées ne cessèrent pas. Elles revenaient toutes les heures. Je ne comprenais pas pourquoi elles étaient si fortes. Le sang mortel combattait-il le mien? Ou étais-je véritablement maudite? Un sort égaré d'Aétès avait-il tournoyé dans les airs pendant toutes ces années pour me trouver enfin? En tout cas, ce fléau résistait à tous les contresorts, même le Molly. Rien de bien mystérieux, me dis-je. N'as-tu pas toujours insisté pour être difficile dans tout ce que tu fais? Dans mon état, je ne pouvais pas me défendre contre les marins, et je le savais. Je me traînai jusqu'à mes pots d'herbe pour jeter le sort auquel j'avais pensé il y avait si longtemps. Une illusion destinée à rendre l'île hostile, entourée de rochers menaçant chaque bateau qui passait de se fracasser dessus. Après quoi, je m'allongeai par terre, haletant d'effort. On allait donc me laisser en paix. En paix. J'aurais ri si je n'avais pas été aussi malade. L'arôme aigre du fromage dans la cuisine, la puanteur salée des algues dans la brise, la terre pleine d'asticots après la pluie, les roses à l'odeur écœurante qui brunissaient sur leurs buissons. Toutes ces odeurs faisaient remonter une bile qui m'arrachait la gorge. Des maux de tête suivirent, pareils à des piquants d'oursins plantés dans mes orbites. C'est ainsi qu'avait dû se sentir Zeus avant qu'Athéna saute hors de son crâne. Je me traînai jusqu'à ma chambre et restai allongée dans la pénombre, volet clos, pensant à quel point il serait doux de me trancher la gorge et d'en finir. Mais le plus étrange, c'est que, même confrontée à une situation aussi extrême, je ne me sentais pas complètement accablée. J'étais habituée au malheur, informe et opaque, qui s'insinue dans toutes les directions. Or, celui-ci avait des rivages, des profondeurs, un but et une forme. Il contenait de l'espoir, car il était destiné à finir et à m'apporter mon enfant, mon fils. Car, grâce à ma sorcellerie ou à mon sang prophétique, je connaissais son sexe. Il grandit, et sa fragilité grandit avec lui. Je n'avais jamais été aussi contente de ma chair immortelle, qui formait des couches comparables à une armure autour de lui. Ivre de joie, quand je sentis ses premiers coups de pied, je lui parlais constamment, en écrasant mes herbes, en taillant ses vêtements, en tressant son berceau avec des joncs. Je l'imaginais marchant à mes côtés, l'enfant, le garçon et l'homme qu'il deviendrait. Je lui montrerai toutes les merveilles que j'avais rassemblées pour lui. L'île et son ciel, les fruits et les moutons, les vagues et les lions. Cette solitude parfaite qui ne serait jamais plus de l'isolement. Je posai ma main sur mon ventre. Ton père a dit un jour qu'il voulait d'autres enfants. Mais ce n'est pas pour cette raison que tu existes. Tu es pour moi. Ulysse m'avait raconté que les douleurs de Pénélope avaient d'abord été si légères qu'elle avait cru souffrir d'une indigestion de poire. Les miennes tombèrent du ciel, tel un coup de tonnerre. Je me souviens d'avoir rampé jusqu'à la maison depuis le jardin, arc-boutée à chaque contraction déchirante. J'avais préparé une potion à base de saule et j'en bus quelques gouttes, puis la totalité, et finalement je léchai le goulot de la bouteille. J'en savais si peu à propos de l'accouchement, de ses phases et de sa progression. Les ombres changèrent et tout se confondit en un moment interminable, la douleur semblable à une pierre qui me réduirait en bouillie. Je hurlais en poussant pendant des heures, mais le bébé n'arrivait toujours pas. Les sages-femmes avaient des astuces pour aider l'enfant à descendre, sauf que je ne les connaissais pas. Malgré tout, il y avait une chose que je comprenais. Si le travail durait trop longtemps, mon fils allait mourir. Il continua. Je souffrais tellement que je renversais une table. Ensuite, je retrouverais la pièce sans dessus-dessous, comme si elle avait été saccagée par des ours, les tapisseries arrachées des murs, les outils en mille morceaux, les plats brisés. Je ne m'en souviens pas. Un millier de pensées terrifiantes tournoyaient dans ma tête. Le bébé était-il déjà mort ? À moins que je ne sois comme ma sœur, avec un monstre grandissant en moi. Cette douleur interminable semblait le confirmer. Si le bébé était entier et normal, n'arriverait-il pas ? Je fermai les yeux. En glissant une main à l'intérieur, je sentis la courbe lisse de la tête de l'enfant. Pour autant que je sache, il n'avait ni cornes, ni autres horreurs. Il était juste coincé. Comprimé entre mes muscles et mes os. Je priais Ility, la déesse des accouchements. Elle avait le pouvoir de desserrer l'étau de la matrice et de mettre l'enfant au monde. On racontait qu'elle surveillait la naissance de chaque dieu ou demi-dieu. « Viens !» criai-je. Mais elle n'en fit rien. Les animaux gémirent dans leur coin et je commençai à me souvenir des murmures de mes cousins dans les salles du palais d'Océan. Si longtemps auparavant. Si un dieu ne voulait pas que votre enfant naisse, il pouvait empêcher Ility de venir. Cette pensée s'imposa à mon esprit affolé. Quelqu'un l'empêchait de me rejoindre. Quelqu'un osait essayer de faire du mal à mon fils. Cela me donna la force dont j'avais besoin. Montrant les dents dans le noir, je me traînai jusqu'à la cuisine. J'attrapai un couteau, tirai un grand miroir en bronze face à moi, car Dédale n'était pas là pour m'aider. Je m'appuyai contre le mur de marbre, au milieu des pieds brisés de la table. La fraîcheur de la pierre me calma. Cet enfant n'était pas un minotaure, mais un mortel. Je ne devais pas couper trop profondément. Moi qui avais craint que la douleur n'ait raison de moi, je la sentis à peine. Il y eut un son râpeux, pareil à celui de la pierre contre la pierre, qui, je le compris, n'était autre que ma propre respiration. La chair s'écarta, et enfin je le vis. Les membres aussi courbés qu'un escargot dans sa coquille. Je le fixai longuement, effrayé à l'idée de le toucher. Et s'il était déjà mort ? Et s'il n'était pas mort, et que je le tuais en le prenant ? Néanmoins, je le tirai vers l'avant, sa peau entra en contact avec l'air et il se mit à vagir. Je vagis avec lui car je n'avais jamais entendu de son plus doux. Je l'allongeai sur mon sein. Les dalles de pierre au-dessous de nous me parurent aussi confortables que des plumes. Il tremblait sans relâche, son visage humide et vivant pressé contre ma peau. Je coupai le cordon en le tenant toujours de l'autre main. Tu vois ? M'écriai-je. Nous n'avons besoin de personne. En guise de réponse, il émit un coassement de grenouille et ferma les yeux. Mon fils, Télégonos. La maternité ne me vint pas facilement. Je l'affrontai comme les soldats affrontent l'ennemi, carapassonné et raidi, épée levée pour parer les coups. Cependant, mes préparatifs ne se révélèrent pas suffisants. Durant ces mois passés en compagnie d'Ulysse, j'avais cru apprendre certaines astuces de la vie mortelle. 3 repas par jour, les flux de la chair, la lessive et le nettoyage. J'avais taillé 20 couches en tissu et je croyais avoir été sage. Mais que savais-je des bébés mortels ? Aétès n'était resté dans mes bras qu'un mois. J'avais utilisé ces 20 couches dès le premier jour. Je remercie les dieux de ne pas avoir eu besoin de dormir. À chaque instant, je devais laver, faire bouillir, nettoyer, frotter et mettre à tremper. Comment était-ce possible, alors qu'il avait lui aussi besoin de quelque chose à chaque minute, manger, être changé, dormir ? Même si j'avais toujours considéré le sommeil comme la plus naturelle des fonctions chez les mortels, aussi aisée que la respiration, il n'y parvenait visiblement pas. J'avais beau l'envelopper de couverture, le bercer et chanter, il hurlait, s'étouffant à moitié, tremblant jusqu'à ce que les lions prennent la fuite et que je craigne qu'il ne se fasse du mal. Je fabriquai un porte-bébé pour le garder contre mon cœur. Je lui donnai des herbes apaisantes, fis brûler de l'encens, appelai les oiseaux à venir chanter sous nos fenêtres. La seule chose qui aidait, c'était quand je marchais, que j'arpentais les pièces de la maison, les collines, la grève. Alors il finissait enfin par s'épuiser, baisser les paupières et s'assoupir. Mais dès que je m'arrêtais et que je tentais de le poser, il se réveillait sur le champ. Et même lorsque je marchais sans m'arrêter, il ne tardait pas à reprendre conscience et se remettait à hurler. Il y avait en lui l'équivalent d'un océan de chagrin, possible à endiguer pendant un moment, mais intarissable. Combien de fois songeais-je à l'enfant souriant d'Ulysse ces jours-là ? J'essayai son tour en plus de tout le reste. Brandis le corps mou de mon fils en l'air en lui promettant qu'il était en sécurité. Il ne fit que crier plus fort. Quelle que soit l'influence qui avait pu rendre le prince Télémaque si doux, elle devait provenir de Pénélope. J'avais l'enfant que je méritais. Nous trouvions tout de même quelques moments de paix. Lorsqu'il dormait enfin, qu'il tétait mon sein, qu'il souriait à la vue d'un groupe d'oiseaux perchés sur un arbre qui s'éparpillait à tire-d'aile. Je le contemplais alors, en proie à un amour si intense qu'il semblait me déchirer les entrailles. Je dressai une liste de tout ce que je ferais pour lui. Me brûler la peau jusqu'à ce qu'elle pèle, m'arracher les yeux, marcher à m'en mettre les os des pieds à vif, si seulement il pouvait être heureux et bien portant. Sauf qu'il n'était pas heureux. « 1 minute, me disais-je, j'ai juste besoin 1 minute sans sa rage humide dans mes bras. » Mais elle n'arrivait pas. Il détestait le soleil, il détestait le vent, il détestait les bains. Il détestait être habillé, être nu, être allongé, sur le ventre comme sur le dos. Il détestait ce vaste monde et l'ensemble de son contenu, et par-dessus tout, il me détestait, moi. Je pensais à toutes ces heures consacrées à travailler sur mes charmes, à chanter, à tisser. Je ressentais leur perte aussi vivement que si on m'avait arraché un membre. Je me surpris à penser que même la transformation des hommes en pourceaux me manquait, car au moins, c'était une tâche que je faisais bien. J'avais envie de jeter Télégonos très loin de moi, mais au lieu de cela, je parcourais sans relâche ces ténèbres d'un bon pas, marchant en long et en large avec lui devant les vagues, et à chaque enjambée, je regrettais profondément mon ancienne vie. Je haranguais l'air nocturne avec amertume. Au moins, je ne m'inquiète pas à l'idée qu'il puisse mourir. Je me plaquai aussitôt une main sur la bouche, car le dieu des enfers apparaît pour bien moins. Je tins sa petite figure farouche contre moi. Il avait des larmes plein les yeux, les cheveux en bataille, une légère égratignure sur la joue. Comment l'avait-il eu ? Quel scélérat avait osé le blesser ? Tout ce que j'avais entendu dire sur les bébés mortels me revint en mémoire d'un seul coup. Leur façon de mourir sans raison apparente, ou pour n'importe quelle raison, parce qu'ils avaient froid, faim, parce qu'ils étaient couchés sur un côté ou sur l'autre. Je vérifiais chaque inspiration qui soulevait sa poitrine mince, tant il était improbable, invraisemblable même, que cette frêle créature qui n'était même pas capable de tenir sa tête arrive à survivre dans ce monde impitoyable. Et pourtant, il survivrait, même si je devais lutter à main nue avec la déesse voilée. Je scrutais les ténèbres, écoutais à la manière des loups, tendant l'oreille au moindre danger. Tissais de nouveau ces illusions qui donnaient à mon île l'apparence d'un rivage hérissé de rochers pointus. Mais j'avais encore peur. Parfois, le désespoir rend les hommes imprudents. S'ils accostaient malgré tout sur ces rochers, ils entendraient ses pleurs et ils viendraient. Et si j'avais oublié mes ruses, et que je ne parvenais pas à les faire boire? Je me souvins des histoires qu'Ulysse m'avait racontées à propos des traitements infligés aux enfants par les soldats. Astyanax et tous les fils de Troie, battus à mort, embrochés sur des pieux, taillés en pièces, piétinés par des chevaux, tués à l'envi pour qu'ils ne survivent pas et n'acquièrent jamais la force de revenir un jour exercer leur vengeance. Toute ma vie, j'avais attendu d'être rattrapé par une tragédie. Je n'avais jamais douté de cette éventualité, car mes désirs, ma défiance et mes pouvoirs représentaient plus que ce que les autres pensaient que je méritais, et tout cela attirait la foudre. À une dizaine de reprises, le chagrin avait frappé, incandescent, mais ces flammes ne m'avaient encore jamais brûlé. À cette époque-là, ma folie était nourrie par une certitude nouvelle. Celle de me trouver enfin confrontée à la chose que les dieux pourraient utiliser contre moi.